Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec les sorties du 21 février. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Encore des sorties ciné. Il y a de quoi faire cette semaine. On passe du rire aux larmes, à la science-fiction, à des claques émotionnelles incroyables, de magnifiques animations. Enfin, franchement, il y a de tout pour faire rêver, pour dépayser, pour faire voyager et aussi pour s'évader au cinéma. Alors, on a la sortie, bien sûr, de Double Foyer, un film qui a été tourné principalement à Toulouse. Et voilà, de Claire Vassé avec au casting Max Boublil et Émilie Dequesne. Donc voilà, on vous en a parlé. Vous avez le podcast qui est disponible sur notre plateforme. On a l'interview de Claire Vassé. Et bientôt, vous allez découvrir, parce qu'on a pu rencontrer de nouveau l'équipe, avec cette fois-ci avec Max Boublil. Et donc, vous allez découvrir ça prochainement. On fera une émission spéciale avec Clément et Lucas qui étaient présents. Mais tout de suite, revenons aux sorties de cette semaine. Je vais commencer par un film que j'attendais, qui était dans mes attentes 2024, et surtout pour le rire, le casting incroyable qui était proposé par L'Empire de Bruno Dumont. De quoi ça parle, Léo ?
Entre Malout et la vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles.
J'aime quand les synopsis ne disent absolument rien et vous laissent complètement dans le vague. Et c'est tout à fait ça. On se trouve sur Terre, entre le bien et le mal. Les humains sont habités soit par le mal, soit par le bien, soit sont simplement des humains qui n'ont pas de personnes qui cohabitent avec l'humanité. Et c'est très fort. Bruno Dumont fait un travail assez fou. On en prend pour notre grade, les humains. On est aussi bien nos défauts par Belzébuth, qui est joué par Fabrice Lucchini. Alors au début, c'est une forme noire et il prend vie, enfin il prend aspect d'un humain sous les traits de Fabrice Lucchini. Là, il prend le corps d'un guide touristique qui est en train de montrer des choses et là on le voit complètement changer et devenir cet être abject, cet être avide de pouvoir qui vit dans un château. Alors les vaisseaux sont assez fous aussi. Le vaisseau de Belzébuth, des forces du mal, c'est un château avec ses jardins, un château incroyable, voilà, qui est dans le ciel. On voit le château et la voûte du ciel avec ses étoiles. Donc, on sent qu'on est dans l'espace. Et puis, de l'autre côté, il y a les forces du bien. Et les forces du bien sont représentées par leur reine, qui est interprétée par Camille Cotin. Et qui là voit toute la gentillesse, tout le bien des humains, toute la force, le fait qu'ils sont fragiles, qu'il faut les aider. Je trouve que voilà, il y a les deux côtés et le réalisateur montre l'opposition de l'humanité entre le bien et le mal. Chez nous, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, il y a du gris. Et donc, on peut vite par rapport à nos émotions, passer d'un côté ou de l'autre, franchir des limites ou rester bien sage et suivre notre cœur ou suivre notre conscience. Voilà, on est comme ça et je trouve que c'est très bien fait. Alors, dans les forces du mal, nous avons Lina Koudry qui joue le rôle de Lynn et qui est une des... comment je pourrais dire ça ? Une des servantes de Malagra. Malagra, c'est le mal incarné, l'enfant. L'enfant qui est né et qui va distiller. Alors, s'il est habité par le mal et conduit par le mal, il distillera le mal. Et s'il est habité par le bien et conduit par le bien, il distillera le bien. Donc, c'est assez, assez compliqué. Et comme il a été mis au monde en plus par deux personnes des forces du mal, donc il est plus attiré par ce côté et il vit avec eux en plus. Donc voilà. Alors on a dans le casting des forces du mal, le papa du prince qui est Johnny, qui est joué par Brandon Vielg. Je vais y arriver. Alors, je suis désolée si j'ai écorché le nom, mais il n'est pas connu, en fait. C'est un jeune qui fait ses premières armes au cinéma et il a quand même un des rôles importants, puisque c'est lui qui mène les forces du mal quand Belzébuth n'est pas sur Terre. C'est lui qui les dirige. Et c'est fort parce que voilà, il a sa voix humaine. Et tout d'un coup, il parle avec une voix caverneuse et tout, un truc très rauque sortant des démons, puisque les forces du mal sont des démons. Et de l'autre côté, on a ce côté très angélique, très, très blanc du bien. Donc c'est vrai que c'est très, très opposé. Et figurez-vous que le vaisseau du bien, eh bien, c'est une cathédrale. Je vous assure, c'est une cathédrale. Et quand il y a des tout petits vaisseaux qui se détachent du grand vaisseau, et ben c'est des toutes petites cathédrales. Et de l'autre côté, quand les vaisseaux se décalent, c'est des tout petits châteaux. Donc c'est vraiment très bien fait. Mais vous savez pas les châteaux du Moyen-Âge et tout. Non, non, le grand château, Chambord, tous ces trucs-là, voilà, très modernes, très... très ouvert, voilà. Alors Fabrice Lucchini, dans son costume de Belzébuth, avec ses bras écartés et tout, moi, il m'a fait mourir de rire, quoi, ces moments. Et puis, il est machiavélique à souhait, tout comme Camille Cotin et en reine blanche, en reine du bien, la sagesse incarnée. Moi, j'aime beaucoup ces contraires entre ces deux personnages. Et voilà, et on le ressent dans les forces du bien et du mal. Alors, j'ai cité Johnny et Lynn pour les forces du mal, on va dire, principales, qui sont un peu au-dessus sur Terre. Et puis, de l'autre côté, les forces du bien, avec un genre de Jedi, puisque c'est quand même une parodie caustique, un moment d'exaltation par rapport à la guerre des étoiles, ce bien et ce mal qui s'affrontent. Et on a Rudy, qui est un peu un genre de padawan, qui n'est pas encore tout à fait, encore, il est encore plus humain que les forces du bien. Donc, du coup, il a encore un peu de mal à faire des choses. Il est un peu maladroit. Il réagit de façon très bizarre envers Jen. Et Jen est jouée par Anna Maria Vartolomé. Et c'est un peu... alors, c'est la force du bien, celle qui dirige, donc une maître Jedi. Et... elle est un peu en style Lara Croft. Si, c'est vrai. Et puis, on la voit souvent en maillot de bain. C'est vrai aussi. Parce que les forces du bien, pour aller au vaisseau de la cathédrale, la grande, pour pouvoir passer, parce qu'il y a des passages sur Terre pour pouvoir se rendre sur ces vaisseaux, eh bien, les forces du bien, c'est dans l'eau. Et les forces du mal, c'est sur Terre, dans une grande forêt où ils ont ce passage où ils peuvent accéder au château du mal. Donc voilà, c'est très drôle. Il y a des moments aussi où, je vous l'ai dit, hein, on s'en prend plein notre grade. Et les humains par-ci, et les machins, oh, ils sont pas tatatat, oh, ils sont poussés par leurs émotions. D'ailleurs, je vous avertis tout de suite, ce film n'est pas à mettre dans toutes les mains. À la fin, d'ailleurs, vous l'entendrez dans les avis, il y a une maman qui est venue avec son fils de 11 ans et qui ne s'attendait pas du tout à des scènes un peu érotiques, dirons-nous. Très poésie, très machin, mais vu du ciel, d'un drone, mais on voit quand même... et puis on entend ce qui se passe, voilà, des effusions de plaisir dans les personnages. Donc c'est vrai que, bah oui, c'est un petit peu jeune. C'était, voilà, il y avait d'autres enfants aussi qui étaient un peu, qu'est-ce que c'est? J'entendais derrière, j'avais une petite fille aussi derrière moi qui disait, c'est quoi, maman? Qu'est-ce qu'ils font? Au secours! J'étais là, bon. Je pense que 8 ans, ce n'est pas aussi un âge pour aller voir ce film. Il faut être un peu plus âgé quand même, hein. Plus de 12 ans, c'est déjà bien et peut-être un, voilà, il faut quand même faire attention. Ado, c'est parfait. Passerait un bon moment en famille, mais avec des ados, hein, je le redis, à partir de 12 ans, je pense que c'est mieux qu'avec des 6-8 ans, comme il y en a, ils y ont été, ils n'avaient pas fait attention, ils se sont dit, bon, on va passer un bon moment, sauf que l'enfant a passé plus de temps, il y a un monsieur qui me disait, il a passé plus de temps avec ma main sur les yeux qu'à regarder le film. Donc voilà, donc bon, oh, y a pas beaucoup d'effusions de sang, hein. C'est juste, voilà, il y a des petites scènes un peu, ben oui, il y a des triangles amoureux, hein, je vais dire ça comme ça, je vais pas vous en dévoiler plus, et puis il y a des policiers, des gendarmes très très drôles aussi, incarnés par Bernard Prouvost et Philippe Jauré, carpentier, qui veut être commandant à la place du commandant, mais qui n'est pas commandant, qui est un peu bêta. On va pas mentir, ils sont un peu benés, ces deux-là, mais on les aime bien. Surtout, je veux dire que les décors, tout ça, ils ont bien dû s'amuser quand même, parce que il y a certains accessoires de décor qui passent un mauvais quart d'heure, mais je n'en dirai pas plus. Après, vous avez des animaux, voilà, il y a plein de choses. Les chevaux sont très importants dans la caste du mâle, vous verrez. Voilà, ils sont vraiment importants. Et ce qui est rigolo, c'est que les chevaux sont blancs, sauf pour un personnage. Mais ça aussi, vous le découvrirez, savoir qui va gagner du bien ou du mal, les forces vont se rencontrer. Est-ce que les forces vont s'entrechoquer ou pas? Ça, vous le découvrirez en allant voir l'Empire. N'hésitez pas. Comme je vous le disais, il y a un très beau casting. Et il y a des découvertes, dont Brandon Vieguen, qui, franchement, m'a épaté en Johnny. Vous avez Julien Magnier qui joue Rudy, comme je vous ai dit, hein, force du bien. Et Anna Maria aussi. Voilà, vous avez des grands noms. Vous avez des personnes qui n'étaient pas prévues normalement au tournage et eh bien qui ont remplacé d'autres personnes. Et dans, comme le dit très bien le réalisateur, eh bien c'était un mal pour un bien parce que ça fait un très très beau casting. Et un bon moment de cinéma, on rigole bien. Et surtout, je vous l'ai dit, on en prend plein son grade et c'est assez très très caustique. Écoutez-vous.
Moi j'ai pas trop, c'est pas trop mon style de film. Mais sinon ça va, c'était pas si mal que ça.
Merci, je pourrais avoir votre prénom?
Erwan.
Parce que j'ai emmené mon fils de 11 ans, mais je pensais pas qu'il y aurait eu des scènes. c'était pas précisé.
Ah, c'était
donc,
pas précisé.
Ouais, voilà.
T'as
donc,
un peu choqué, madame?
Oui.
Donc, sinon, ça a été le film?
Oui, ça va.
Il a eu peur quand il y a eu les trucs noirs là avec la voix des démons et tout, mais c'était super, c'était pas mal quand même.
Merci, je pourrais avoir votre prénom?
C'est Mariana.
Merci. Et toi, madame?
Malone.
Merci beaucoup.
Bah, j'ai apprécié, ça sort des films français, ça sort de l'ordinaire et j'ai bien aimé le côté humour absurde, avec le côté science-fiction en plus, par rapport au côté très terre-à-terre aussi, voilà.
Merci, je pourrais avoir votre prénom?
Victor.
Comme moi, si vous voulez découvrir le film, n'hésitez pas à aller au Pathé Wilson ou dans toute autre salle autour de vous. Vous avez de quoi faire.
Les temps sont proches.
Sire, vous voici enfin parmi nous.
Ne tardons pas.
Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la Terre.
Vous avez pas vu un ovni ?
Un quoi ?
Un ovni.
Les humains sont attachants.
C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière.
Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre.
Celui qui touche à mon Freddy, il a deux pieds à sa gueule.
L'entreprise est vouée à l'échec.
La gendarmerie sur le coup.
Mais les humains, Johnny, sont nuls.
Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale.
So what?
Les forces adverses sont redoutables.
Même si on est ennemi, t'es vraiment belle.
Tu veux que je te la dégage? Utilisons la force, on a la sagesse.
T'as pas peur du démon, toi?
J'ai surtout pas peur des hommes.
C'est quoi, ça?
C'est une belle bande de losers.
C'est peu de le dire.
Oh, on s'en prend plein la gueule.
À la bataille! Les quatre viennent, mon empire!
Bah, allez, où la voiture?
Ouais, là, la voiture qui a parti.
Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film de David Olofen. Alors, eh bien, on change de registre. Et là, on est dans, en 1945. Léo, de quoi parle le film ? Les derniers hommes.
9 mars 1945. L'armée japonaise lance un assaut foudroyant contre les troupes françaises en Indochine. Traquée par l'ennemi, une colonne de légionnaires déjà affaiblie s'élance au cœur de la jungle pour rallier les bases alliées à plus de 300 km. Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Bah, ils sont plongés dans l'horreur de la jungle, l'Indochine, le Vietnam, et surtout rallier la Chine en essayant de se faufiler et de passer entre les Japonais. Donc c'est un très beau film. C'est aussi assez fou parce que c'est le film avait comme scénariste Jacques Perrin. Jacques Perrin qui nous a quittés malheureusement et qui était aux prémices du film, à la création de ce film, qui n'a pas pu malheureusement voir tout ce qu'il y avait après, mais c'est grâce à lui que ce film a vu le jour. Et je l'en remercie de là-haut parce que, en fait, ce film est très beau et on voit cette solidarité entre hommes et aussi ce côté, légion étrangère. Ce sont des non-combattants. C'est un détachement de non-combattants qui va se retrouver à prendre les armes pour sa survie. C'est la colonne Dring. Et ils vont devoir prendre les armes pour franchir 200 kilomètres à pied. Faire 200 kilomètres à pied dans une jungle inhospitalière, avec des dangers en voiture, Surtout les Japonais qui sont à leur trousse, parce que en 45, les Japonais éradiquaient toutes les troupes françaises en Indochine et au Vietnam. Donc, c'est très fort. On est encore, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ça va vraiment vous secouer. Oui, il y a des scènes, on est quand même dans un film. Alors, c'est pas la guerre proprement parlée, mais il y a quand même des moments très forts, très psychologiques, très, très marqués par cette guerre. Et puis, l'affrontement entre les Japonais et les Français, donc, enfin, la Légion étrangère. Et c'est vrai que c'est très fort. Il y a un super casting. Guido Caprino qui joue l'émiote. Alors, l'émiote, c'est le rebelle. Celui qui n'a pas envie de suivre les ordres, celui qui n'a pas envie de suivre l'adjudant, Janicki, qui est joué par Andrzej Szira, et qui doit mener 19 hommes. Eh ouais, 19 hommes dans cette jungle. Alors, malheureusement, dès le début, il en perd deux, parce que ils sont pas aptes à pouvoir faire la route, à pouvoir marcher. Donc, ils sont abandonnés dans le camp à leur demande, parce qu'ils ne se sentent pas la possibilité de les suivre. Ils sont trop affectés. Et donc, voilà, il s'envoie déjà d'eux. Et il tient un journal. Un journal où il va marquer tout ce qui se passe. Un journal où, malheureusement, à chaque fois qu'il y a une perte, eh ben, il va l'indiquer. Dire, voilà, l'affrontement avec les Japonais a fait tant de décès, de machin. Donc, c'est... Ouais, c'est très émouvant, très prenant. On voit la cohésion entre hommes et on voit aussi les dissonances. Le fait qu'il y en a, ils ne sont pas du tout d'accord pour le suivre et pourtant, ils n'ont pas le choix. Je le disais avec les miottes, qui est très bien interprété. Après, vous avez Nuno Lopez qui joue le caporal Lisbonne. Waouh ! Et quel caporal ! Aux ordres de l'adjudant, toujours là pour l'aider. Quand l'adjudant va avoir un moment d'absence, c'est lui qui va reprendre les rênes et c'est lui qui va reprendre l'écriture de ce journal. Le journal ne va jamais être laissé de côté. Il y a toujours quelqu'un qui va écrire dedans. Un de ces hommes de la colonne qui essaye bien de survivre à l'enfer. L'enfer vert et surtout l'enfer, le risque d'être tué par les Japonais. Alors, vous avez aussi Axel Granberger qui joue Carrison. Vous avez Yann Goven qui joue Trefeuille, dit Sorbonne. Vous avez Félix Meyer, Volman, dit Poussin. Vous avez Tegva qui joue Tin, qui est un peu leur guide, en fait, qui connaît les lieux, puisque voilà, il connaît très bien, puisqu'il y a sa famille et tout qui vit là, et il sait se repérer dans cette savane, dans cette jungle folle, pas dans cette savane, dans cette jungle complètement hallucinante et inhospitalière. Et vous avez Arnaud Churin qui joue le rôle d'Aubrac, Antonio Lopez qui joue Alvarez, Wim Willier qui joue Mathusalem, Francesco Sassisca qui joue Pepilici, dit Musso, Aurélien Seyman qui joue Stigman, Maxence Perrin, Maxence Perrin qui joue Ezinger et Guillaume Verdier qui joue Marley. Et c'est vraiment très fort, c'est franchement, chapeau bas au producteur Jacques Perrin et aux autres producteurs après, Frédéric Boutet, Nicolas Elgogi, Mathieu Simonet, Oli Barbet, qui ont été de la partie. Bravo aussi à ceux qui ont fait les reconstitutions. C'est très fort et on est avec cette colonne et on se demande s'ils vont arriver à bon port. Et je vous propose d'écouter vos avis.
Et j'ai beaucoup aimé ce film qui a montré la dureté des campagnes de la Légion. Parce que j'ai eu un cousin légionnaire, donc ça m'a rappelé des souvenirs que j'ai eu avec lui.
Merci. Voilà. Je pourrais avoir votre prénom ?
Philippe.
Oui, je l'avais repéré lors de son passage au Festival de Deauville. Et donc je l'attendais beaucoup parce que j'aime bien ce genre de film. J'aimais beaucoup Jacques Perrin, donc c'était vendeur pour moi, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé évidemment la 317e section. Pas Apocalypse Now parce que c'est pas du tout comparable, mais
très psychologique.
Oui, c'est très psychologique, mais c'est comment dire bon, la folie des hommes dans un paysage. Ça m'a plus rappelé la ligne rouge de Terrence Malick, parce que je suis un grand fan de Terrence Malick, et donc ça m'a vraiment beaucoup rappelé cet univers, que cette ambiance. Parce que Terrence Malick, c'est toujours l'homme contre la nature, ça rend bien, hein, c'est une thématique qui lui est chère, la beauté de la nature contre la folie des hommes. Et là, je trouve qu'on le retrouve bien quand même. Hein, donc bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Quoi. Bon, évidemment, c'est pas un film de guerre, c'est pas Platoon, quoi, mais c'est pas ce que j'attendais, donc je suis pas déçu du tout. Voilà.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
Bernard.
J'ai découvert ce film au Gaumont-la-Bège. Voilà, j'ai regardé la programmation et je me suis dit tiens, et je n'ai pas été déçue. Oui, c'est un film de guerre, oui, c'est un film très fort, oui, c'est un film choc, mais pas tant dans les batailles, plus dans les relations entre ces hommes, de savoir si la survie mérite des pertes et si surtout pour survivre il faut être ensemble ou séparés. Ça, vous le découvrirez dans ce très beau film.
9 mars 45.
Garde à vous !
Les Japonais ont attaqué sur tout le territoire.
Ils arrivent.
Effectif total, 19. Objectif, 200 km. Nos chances d'y arriver sont proches du néant.
Le sort, c'est acharné sur nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les alcooliques, les moins que rien.
On a juste des hommes. Paumé dans la jungle. Il n'a plus de règles. Plus de chefs. C'est compris. Est-ce que nous sommes déjà morts? Si l'un d'entre nous y arrive, on y arrive un peu tous.
Le troisième film dont je vais vous parler, on change encore de registre, on vient dans une comédie historique, non, je vous assure, Les Chèvres. Léo, est-ce que tu peux nous lire le synopsis ?
Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ? Maître Pompignac, risé du barreau, pense avoir trouvé l'affaire de sa vie. Défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d'un maréchal. Mais c'était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s'avère n'être autre qu'une chèvre.
C'est réalisé par Fred Cavaillé et scénarisé par Fred Cavaillé, par Sarah Kaminski, la scénariste, souvenez-vous, eh bien de Adieu Monsieur Hoffman et de du dernier film incroyable La Tresse, scénarisé aussi par Nicolas Slomka et par Mathieu Rumani. Donc quatre scénaristes qui se sont mis à pied d'œuvre pour parler eh bien d'un événement qui avait lieu en 1600. En fait, vous savez, vous pouvez être coupable, voilà, humain, et bien, on jugeait des animaux. Si, des animaux qui auraient fait des actes répréhensibles. Et là, bien, voilà, on juge une chèvre qui aurait tué un grand maréchal, machin. Et on voit pas ça d'un très très bon œil. Là-haut au palais, surtout un certain cardinal, le cardinal Mazarin, qui est joué incroyablement par Grégory Gadebois, et puis son quand il discute avec Anne d'Autriche, enfin, qui se plie devant elle et qui lui explique l'affaire de la chèvre, en disant « Bée !» C'est très drôle. Et Anne d'Autriche, qui est jouée par Sophie Marie Larouille. Et donc, voilà, donc, on lui dit quelque chose et il faut qu'il le fasse. Et à côté, il a Fatsa Bouyamed qui joue le rôle du baron. Et lui, bon, bah, il a entendu les doléances du cardinal. Il sait que surtout, il ne faut pas qu'il y ait les Savoisiens qui soient incriminés. Puisque vous savez, il y a le domaine de la France et il y a la Savoie qui est pour qui sont les ennemis des Français de cette époque, et donc les Savoisiens sont très très mal vus, et voilà. Donc et puis vous avez des maîtres, des avocats. Vous avez le maître Pompignac, qui est joué délicieusement par Danny Boone. Vous avez le maître Valvert, qui est joué par Jérôme Commandeur. Je ris parce que en fait, je me souviens des scènes et je trouve ça vraiment très cocasse. Danny Boone, voilà, avocat, bon, il n'a pas réussi tout ce qu'il voulait. Il vient de Clermont-Ferrand, il atterrit à Paris, il ne gagne aucun procès. Il est désabusé. En plus, à côté, vous avez Maître Valvert, Jérôme Commandeur, qui est le maître du barreau, qui remporte tous ses procès. Donc, pour lui, ce n'est qu'une formalité de faire condamner cette chèvre et de revenir à sa belle vie de Paris et de laisser la province derrière lui. Sauf que il a sous-estimé Maître Pompignac et voilà. Bon, au début, il n'est pas très très pour représenter la chèvre. Et puis, petit à petit, voilà, il y a des quiproquos. Mais le quiproquo, qu'est-ce que c'est cocasse qui s'imagine représenter une petite fille alors que c'est une chèvre, et c'est vraiment très drôle, jusqu'au dénouement où il voit, il découvre le poteau rose que c'est une chèvre, et là c'est très très fort. Il y a un moment où il se sent un peu abattu, il va revenir, et à côté de lui, il a Alexandre Desrousseaux qui joue le rôle de Jean, qui est son assistant, son neveu, qui l'aide à porter les bagages, qui est un peu son sous-fifre, hein, on va pas mentir, et qui est un peu gaffeur. Oui, oui, très gaffeur même. D'ailleurs, c'est lui qui nous conte cette histoire, qui nous raconte, 47 ans plus tôt, ce qui s'est passé avec son oncle, à ce procès, avec les chèvres. Et puis, dans celle qui connaît très bien la chèvre, vous avez Camille, qui est jouée par Claire Schust. Et là aussi, c'est très drôle. Voilà, elle aime beaucoup cette chèvre. Mais voilà, bon, vous avez la chèvre, hein, c'est très fort, qui est dans sa cage. Et voilà, et tout tourne autour d'elle. Et puis, du fameux maréchal qui a été tué par la chèvre, mon Dieu, tout le monde. Et en fait, au procès, c'est pas le juge qu'il faut attendrir, ni les jurés. Non, non, c'est le public, c'est l'assistance qui est reine, qui décide de vie ou de mort sur la personne qui est représentée comme l'accusée. Et dans ce cas-là, c'est la chèvre. Et puis, vous avez d'autres personnages que vous allez voir apparaître petit à petit, mais je n'en dirai pas plus. Notez quand même Benoît Tachoire et Ludivine de Chastenay en tant que l'aubergiste et la femme de l'aubergiste. C'est tout un poème, ça donne quelque chose de bien. Et la baronne Gaëlle Lebert, qui est la femme du baron, bien sûr, Fatsa Bouyamed, le duo est tordant. Et Fatsa, le baron, se fait marcher sur les pieds, hein, son admiration. Il ferme les yeux sur les frasques de Maître Valvert, qui l'accueille gentiment chez lui, jusqu'à se retrouver dépossédé de sa maison. Et c'est très drôle, très très drôle. On passe un bon moment, on rigole. On voit aussi que le ridicule ne tue pas. Non, non. Et puis, on a aussi un juge, André Penverne, voilà, qui est très drôle aussi, qui a aussi sa part de drôle. Moi, je trouve qu'on passe un excellent moment. D'autres personnes que vous découvrirez au fur et à mesure du film, et comme moi, d'autres personnes ont passé un bon moment. Voici vos avis.
Ben écoutez, moi j'ai trouvé ça très sympa, j'ai bien ri. Mais bon, en même temps, c'est vrai que je suis bon public, donc j'aime beaucoup ce genre de film un peu où on pose son cerveau à côté, où on suit l'histoire. Donc pour moi, c'est parfait.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Valérie.
Le film était très bien. L'histoire est drôle et voilà.
Oh ben, il était bien marrant. Enfin, je me suis bien divertie et il était quand même. Enfin, il y a de bons acteurs dedans, donc un bon film.
J'ai trouvé le sujet original, quelque chose de l'histoire qu'on apprend puisque à partir, c'est vrai, paraît-il. Mm-hmm, c'est vrai. Donc oui, tourné d'une manière. Oui, c'est un film original, difficile à classer, un peu historique, un peu comédie. Non, on a bien aimé. On a passé un bon moment.
Merci. Je pourrais avoir vos prénoms ?
Lily-Jeanne Cirezol.
Geneviève.
Découvert au Pathé Wilson, vous l'avez dans d'autres cinémas comme le CGR Blagnac. N'hésitez pas à aller découvrir ce film pour un bon moment de rire et une ouverture sur l'historique. Oui, oui, parce qu'il y avait vraiment des animaux qui ont été condamnés. Oui. Qui ont été condamnés pour leur action néfaste. Et ils ont eu des sorts pas très 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 bien. Je vous rassure, dans ce film, aucun animal n'a été blessé. Tout va bien, on nous le dit à la fin. Et c'est une partie de rire et une partie d'histoire.
Je cherche un bon avocat. C'est pour défendre une innocente. Elle s'appelle Josette.
De quoi la question ?
De meurtre.
Faites voir ce dessin.
Josette, vous avez dit.
Quel âge a-t-elle ?
11 ans.
Elle m'a entendu plaider dans l'affaire Grondin.
Je suis confiant.
Elle s'est dit que j'étais celui qui pouvait sauver cet enfant.
Coupable ! Vous savez qu'être avocat, c'est sauver son client, hein, pas le faire condamner.
Une enfant de 11 ans accusée à tort, c'est imperdable. L'acquittement sera une formalité.
Faites entrer l'accusé.
Non mais je rêve, ils l'ont mise dans une cage.
Pauvre enfant !
Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre.
Une chèvre ?
Oui, Majesté, une chèvre. Ben.
Tous les autres avaient dit non ?
Bien sûr qu'il faudrait être un âne pour accepter de défendre une chèvre.
Vous ne saviez pas que l'accusé était une chèvre ?
Bien sûr que si.
Il y a quelques instants, vous sembliez plutôt surpris.
J'ai bien vu votre tête.
Vous avez fait oh !
Je n'ai jamais fait oh !
Vous êtes parti la tête en arrière avec votre paillasse là, qui vous sert de coiffure.
Je sens que la vérité est là, toute proche.
Mais qu'avez-vous vu ?
J'ai tout vu, tout !
Pour moi, c'est plus qu'une chèvre. C'est ma meilleure amie. C'est ma sœur, ma confidente.
Oh bah oui, allons-y. Ma mère aussi, pendant qu'on y est.
Le quatrième film dont on va vous parler, c'est Le Royaume des Abysses. Une claque de film d'animation. J'ai pas d'autres mots. C'est un film signé Tian Xiaopeng. Je suis complètement sous le charme. C'est un truc de fou. C'est une réalisation colorée, époustouflante. Mais tout de suite, Léo, dis-nous de quoi ça parle.
Sheng Xu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu, peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux, émerge le restaurant des abysses, dirigé par l'emblématique capitaine Nanier. Poursuivi par le fantôme rouge, leur route sera semée d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer.
Wow, un film qui te laisse pas de marbre, c'est magnifique, c'est triste à la fois, tellement hallucinant, d'une sensibilité incroyable, c'est splendide, les visuels sont splendides, c'est un tourbillon en fait, un véritable tourbillon coloré d'animation, enfin c'est phénoménal quoi. Il y a des couleurs de partout, du mouvement, c'est une émotion puissante, enfin, puis c'est très envoûtant. On est captivé du début à la fin par ce film, alors les plus jeunes comprendront, mais ce sera, voilà, ils auront une autre lecture que nous. À partir d'ado, là, les personnes comprendront la chute et surtout les nombreux rebondissements qu'il y aura dans le film. Mais ouais, c'est très beau, ça fait peur, ça tient en haleine, c'est hyper attendrissant, c'est hyper émouvant, on utilise les mouchoirs, on est touché par cette complicité qui naît entre cette petite fille et le responsable du restaurant qui au début se moque un peu d'elle, lui dit bah tiens, tu veux récupérer la petite bestiole là qui veut t'aider pour retrouver ta maman, eh ben avant tu vas me la passer et on va faire un super mets et grâce à cette bestiole eh bien tout ira mieux et je gagnerai des étoiles puisque il a un restaurant sur les flots, sur le royaume des abysses et il vogue sur ce royaume des abysses, il vit c'est assez hallucinant et il gagne des étoiles tout au long parce que c'est une croisière en fait, il a des personnes à bord et c'est ces personnes qui lui permettent de faire croître les étoiles, lui donnent des sous, il va faire des choses que personne ne pense parce que on le dit un peu imbu de lui-même, égoïste, égocentrique, il regarde pas ses employés, il s'en occupe pas. Pour lui, c'est la cuisine, c'est la renommée de ses plats qui ne sont pas compris et qu'il a grâce à cet élément de plus qu'il va mettre dans la soupe. Là, ça va ravir les papilles et ravir surtout les yeux et apporter des visions incroyables de mets succulents et ça va donner quelque chose d'assez fou. Alors on aime ces petites loutres qui sont les employés de cet homme et c'est tout mignon et quand t'entends ta fille de 15 ans à côté, il fait oh c'est trop mignon les petites loutres, j'en veux une. Non, c'est bon, c'est dans le film d'animation. Elles sont pas comme ça en vrai, elles parlent pas d'abord, mais c'est très mignon, c'est la réalisation est incroyable, c'est le graphisme somptueux. En fait, on est une barre, voire beaucoup plus, un niveau au-dessus de tous les films d'animation qu'on a pu voir, même les Gimli, c'est hallucinant, on est emporté dans cette vague, on est dans ce tourbillon de lumière, d'espoir, d'émotion, et on vit tout ça en apnée, parce qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la fin? Et quand on a la chute de cette histoire, waouh, on est encore plus sur les fesses, et on se dit, bravo, quelle merveille, quelle réussite, et je suis pas la seule à le dire.
C'est magique. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est très magique.
T'es vachement mignon.
Ouais.
Je peux avoir ton prénom?
David.
Oui, ben nous, j'ai bien aimé. C'est familial, triste. Je sais pas comment dire d'autre.
C'était particulier, différent des films d'animation français et américains, mais c'était intéressant.
Merci. Je pourrais avoir les prénoms? Julie.
Ubald.
C'était très intéressant, très coloré, très sympa. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Et toi?
Ah non, pareil, surprenant, très coloré, effectivement. Et une fin inattendue. Enfin, ouais, c'est inattendu. Ouais. Non, très sympathique. Bon, un bon moment.
Moi, les prénoms?
Ah, Xavier.
Xavier et Cécile.
Et Cécile.
Ah, c'est triste. Ils disent de redonner le sourire, mais ça fout un peu le cafard.
Moi, je suis pas très heureux pour tout ce que je ressens.
Ouais, mais c'est très beau.
Mais ouais, je m'y attendais pas forcément.
Ouais,
là,
c'est dramatique. C'est quand même...
Ouais. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions tout le long.
Oui, on se doutait un peu que c'était un...
Faut laisser le...
Ah pardon, oui, c'est ça, ouais. Mais oui, il y a des choses qui sont suggérées,
Mais c'est assez fort quand même, je pensais pas pour... Après, non, je sais...
C'est très fort. Moi, j'étais super
public...
gérée.
Okay, ouais, le public visé, pour des enfants, ça, je sais pas si c'est...
Ouais, c'est un petit peu plus...
Ouais, parce ouais. que... Parce que là, c'est pas une magie. À la fin, on sait que... Ah, bon, je vais pas spoiler, mais...
Non, on dirait rien.
Ouais, mais quand même, c'est assez fort d'avoir fait ça.
Ah, mais c'est magnifique. Moi, je suis...
Visuellement, quand même, c'est... Visuellement, c'est impressionnant, le côté pictural. Ouais.
Mais ouais. Je pourrais avoir les prénoms ?
Van.
Et Kyo.
Non, mais il était super intéressant, l'aspect rêve, qu'on peut un peu percevoir au début, qu'elle va rentrer dedans, puisqu'on entend la voix du marchand. Et ouais, non, tout le suivi, après, qu'elle refait le fil dans sa tête et qu'elle resitue tout. Et... Non, mais c'est un film super intéressant. Non, je l'ai trouvé très bien.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
Jérémy.
N'hésitez pas à aller voir ce film, que ce soit en version originale ou en version française, parce que c'est vraiment un petit bijou d'animation. Un film d'animation comme ça, on en fait peu, et KMBO a pris, voilà, nous permet de voir ce film, le distribuer en France, donc... N'hésitez pas à aller voir ce petit chef-d'œuvre d'animation. Je vous le conseille. Nous, on l'a vu en avant-première au Gaumont-la-Bège, mais il est dans tous les autres cinémas parce que c'est un petit chef-d'œuvre vraiment très fort et les dessins sont magnifiques. L'histoire est très belle, très émouvante. On se demande ce que va arriver à cette petite fille, comment va se finir la croisière et surtout, est-ce que l'ombre rouge va gagner ou pas ? Qui est attiré par la tristesse de cet enfant, qui se nourrit de cette tristesse et non de l'espoir. Et donc, quand il va lui arriver des choses, ça va être très compliqué. Donc, n'hésitez surtout pas à découvrir ce petit bijou.
Bienvenue dans un monde merveilleux. Et si vos rêves devenaient réalité ?
La légende du restaurant des abysses.
Bonjour, y a quelqu'un ?
Notre patron est un véritable artiste.
Ma cuisine est étincelante et futuriste. 3 étoiles ?
Oh oui, je suis riche !
Non mais d'où tu sors, toi ?
J'ai besoin de retrouver ma maman.
Tu comptes pas garder la gamine ?
N'y a qu'elle qui peut nous aider ! Aide-moi à atteindre l'œil des abysses. C'est l'antre des Poculus. Ils me mèneront à la fortune et toi à ta maman.
Plongé dans une grande aventure.
Cette sale tête fantôme rouge, il est derrière le hublot !
Le fantôme rouge adore chasser les petites filles tristes. Alors souris, t'as besoin d'un petit relooking.
Un voyage aux 1000 émotions.
Fais demi-tour, c'est trop dangereux.
Tu dois aller jusqu'au bout de ta quête.
Retenez votre souffle.
Bon fier équipage, tous à vos postes.
Lâche ce bonbon, tu veux bien?
La vie n'est-elle pas une aventure? Il ne faut pas passer à côté.
Le royaume des abysses. Au cinéma, le 21 février.
Le dernier film dont je vais vous parler, c'est aussi un film que j'attendais. Une attente 2024, décidément. Cette semaine m'a ravie. Et là, eh bien, là, c'est Une vie de James Awes. Oh, quelle claque émotionnelle. De quoi ça parle, Léo ?
Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicolas Winton va organiser des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Cette histoire vraie, restée méconnue pendant des décennies, est révélée au monde entier lorsqu'en 1988, une émission britannique invite Nicolas à témoigner. Celui-ci ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants, désormais adultes, qui ont survécu grâce à lui.
C'est fou cette histoire. C'est hallucinant. Des hommes qui ont pris, qui ont pris le taureau par les cornes, on va dire les choses comme ça, qui ont vu des enfants, des familles complètement anéanties et qui se sont dit « je veux faire quelque chose, je dois faire quelque chose ». Il était venu à Nicolas Winton, était venu à Prague, simple secrétaire, faire des choses. Bon, il y avait des réfugiés, mais il ne pensait pas que c'était une telle ampleur, qu'il y avait autant d'enfants qui étaient en danger de mort par le fait que l'Allemagne se faisait oppressante et avait gagné les Sudètes. Il pouvait, était vraiment très très menaçante et risqué d'envahir la Tchécoslovaquie, la Pologne. Donc c'était très très compliqué et c'était un climat où les Juifs avaient très peur et on donnait pas cher de leur vie. Donc il s'est dit je vais sauver ces enfants. Alors, pourquoi, me direz-vous, pourquoi pas une famille entière ? Parce que c'était un accord avec l'Angleterre. Et ils ont dit, très bien, des familles d'accueil, mais ces familles d'accueil pourront accueillir des enfants. Et quand ça ira mieux, quand le climat sera plus supportable, et que, ils seront récupérés par leurs parents plus tard. Ils viendront les chercher en Angleterre, où on retournera là-bas ramener les enfants. Et donc, il met en place les familles d'accueil. Et il a des photos. Il a pris des photos des enfants et il propose un peu comme une loterie. Les familles d'accueil choisissent l'enfant qu'ils veulent accueillir. Ah tiens, je voudrais... Ils envoient des lettres, par exemple. Ce qui est horrible. Et ce qui est hyper bien retracé dans le film. On ressent toutes ces émotions. Alors, on commence pas par 1938. On se retrouve avec un Anthony Hopkins, d'un Nicolas Winton âgé qui a fait sa vie, qui a légué sa vie aux autres, puisque après avoir sauvé ses enfants, il a fait partie des associations, il a essayé d'aider des réfugiés tout au long de sa vie, les plus démunis. Il a fait œuvre de charité et s'est donné complètement aux autres. Lui et sa femme, Lena Olin, qui est... Grete Winton, qui est interprétée par Lena Olin. Et c'est vrai que c'est très puissant. Ils ont. Mais le problème, c'est que il y a plein de choses et il va devenir grand-père. Donc il faut faire de la place, un peu de place à ce nouvel arrivant. Donc il faut un peu vider la maison qui est pleine de cartons, de choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont vieux, qui sont anciens. Et il range. Et en rangeant, il retombe sur cette sacoche. Cette sacoche qui renferme cet album avec les photos des enfants, l'histoire des enfants, la liste des enfants qui ont été sauvés, des convois qui ont été mis en place. Et tout ça est retranscrit dans le film. On passe d'un Anthony Hopkins à un Johnny Flynn qui joue Nicolas Winton jeune et qui est époustouflant. C'est hallucinant. Cet homme est vraiment d'une telle émotion, il fait passer énormément de choses par son interprétation et on ressent cette peur, on ressent cette dévotion envers ses enfants, cette tendresse qu'il a quand il leur parle. Et c'est complètement fou et on a toute cette virtuosité dans cet acteur et je trouve que le casting a été vraiment super bien fait. Aussi bien Nicolas Winton âgé que Nicolas Winton jeune. Ils ont cette vraiment cette appartenance et ils sont très ressemblants l'un et l'autre au Nicolas Winton le vrai par rapport aux photos et tout. C'est vraiment très ressemblant. Alors dans ce casting il y a aussi Helena Bonham Carter qui joue le rôle de Babette Babi Winton, la maman de Nicolas Winton. Et voilà, Helena, bah c'est Harry Potter, c'est la méchante d'Harry Potter. C'est une femme incroyable qu'on a vue aussi dans d'autres films. Et de la voir là, une femme combattante, qui prend elle aussi les armes en Angleterre et qui fait bouger ses banquiers là, qui sont assis, à dire « bon allez, maintenant vous allez nous aider quoi ». Aussi bien les banquiers que ceux de l'administration, ceux qui s'occupent des réfugiés. Même s'ils lui disent que ce n'est pas possible, elle tape du poing sur la table, elle rue dans les brancards et croyez-moi que ça déménage. Comme fait par exemple aussi Johnny Flynn qui essaye de faire les choses. Et là-bas, eh bien, quand il est à Prague, il est aidé par Trevor Chadwick, qui est joué par Alex Sharp, Doreen Wariner, qui est jouée par Romala Garé. Et c'est vraiment très puissant. Il y a vraiment, vraiment un très, très beau casting. Vous avez aussi Martin Blake, qui est joué par Jonathan Pryce, qui est quand même un grand, grand monsieur. Moi, je trouve que les interprétations sont très, très belles. Il y a vraiment c'est vraiment très bien fait. L'histoire est vraiment menée comme il faut. On a toute cette émotion. On a ces enfants qui nous touchent, ces enfants qui... Il y a un parallèle qu'on peut faire à un moment donné. Moi... Quand j'ai vu une enfant, j'ai tout de suite ressenti l'émotion que j'avais ressentie quand j'avais vu la liste de Schindler avec cette petite fille au manteau rouge. Rappelez-vous, le film est en noir et blanc, la liste de Schindler, et c'est le seul moment de couleur, ce manteau rouge qu'elle porte et qu'après on voit sur un chariot, comme quoi bien, elle est passée de vie à trépas. Foudroyée par la puissance allemande, par la cruauté allemande, et bien là, c'est pareil, vous allez ressentir, je pense, la même émotion avec cette petite fille, ce regard d'une telle voilà, peur, il y a tout qui est mêlé dedans, et d'une envie de dire « sauvez-moi s'il vous plaît », et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a des très très beau moment de familial, il y a des très beaux moments d'échange entre les enfants et Johnny Flynn. Je trouve que oui, et puis cette scène aussi, ce retour dans cette émission qui est vraiment véridique et qui a fait le buzz sur YouTube, beaucoup l'avaient vu avant d'aller voir le film et d'autres se disent c'est dommage, j'aurais préféré ne pas voir cette scène et la vivre dans ce film, j'aurais été encore plus touchée. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter vos avis.
Est-ce que tu veux dire un petit mot sur le film ?
Oui, c'était un très beau film.
Je ne saurais pas quoi vous dire, c'est très touchant. J'avais vu en réalité la vraie scène qui avait été tournée. Et oui, c'est...
Moi, je trouve que c'était très intéressant parce que c'est vu du côté juif. Et on ignore beaucoup trop ce côté-là, justement. On le voit du côté de personnes qui ne sont pas juives, si vous voulez. Et, tandis que là, c'est ressenti personnellement par ces personnes-là, les acteurs qui sont de très bons acteurs. Et ça fait bien comprendre, je crois, beaucoup mieux comprendre l'histoire par les sentiments.
Je suis d'accord. Est-ce que je pourrais avoir les prénoms, s'il vous plaît ?
Oui, moi je suis Sophie et ma maman est Cassilde.
Pardon ?
Cassilde ?
Oui.
Il était sûrement émouvant, ça c'est clair. Et en fait, moi, il m'a un peu inspirée. Il m'a fait penser, mais pourquoi je ne fais pas plus, moi aussi ?
Ouais, ça nous fait nous remettre en question. Ça nous fait pas mal nous remettre en question sur... Bah, aujourd'hui, on a la chance de pas forcément vivre dans ce contexte-là, mais on voit bien qu'il y a... Enfin, on se sent moins concerné, parce que moi, aujourd'hui, je vis pas dans ce contexte-là. Mais je pense qu'il y a des pays actuellement qui sont dans des contextes... qui traversent un peu les mêmes choses. Et ouais, ça fait émerger des questions. Après, le truc, c'est que... Là, on est dans la salle, c'est bien. Après, je pense qu'il faut... C'est pas une fois qu'on est sorti, il faut oublier, le film était joli, quoi. Il faut le garder en tête, mais après, c'est facile de vous dire aujourd'hui, ça nous remet en question. Forcément, tout le monde est touché par des films comme ça, mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, et moi, je suis pas sûr non plus de faire quelque chose derrière, mais voilà. Mais c'est bien, c'est des bons rappels qui, je pense, qui sont nécessaires pour nous remettre en question et peut-être un jour nous pousser à avoir les bonnes actions, quoi.
Est-ce que je peux avoir les prénoms ?
Margarita.
Et moi, c'est Julien.
Ah bah, on est en larmes. Donc, émouvant, magnifique, vraiment très très beau. Moi, j'ai adoré. En plus, je regarde beaucoup de films, donc je suis un peu là-dedans. Vraiment incroyable. Cinématographiquement, il est magnifique à voir. Voilà. Il était magnifique. Les images, elles sont sublimes. Et puis, ça m'a achevé. J'ai encore les larmes aux yeux. Je pense que je vais pleurer un petit moment. Ça m'a beaucoup émue. Je suis très émue.
Je suis d'accord, ouais. Je suis pareil.
Ouais.
Je pourrais avoir les prénoms ?
Eva et Inès.
Magnifique. Je connaissais l'histoire et on a vu la fameuse vidéo sur YouTube de la scène finale. J'aurais préféré pas la voir parce que franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup d'émotions. La vie de cet homme est splendide. On a envie de sortir de la salle de cinéma et de se mettre à être utile parce qu'on se sent inutile quand on voit qu'il y a des hommes comme ça qui passent leur vie à vouloir se sentir utile. Et voilà. C'est magnifique et le film le raconte très très bien. Voilà.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Je dirais pas mieux que
lui. Je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît ?
Alexandre.
Je pense que ça se passe de commentaires. Alors, un conseil. N'oubliez pas les mouchoirs. Non, je vous assure. Parce que dès les premières minutes, on est pris à la gorge. On est en apnée. On est ému et touché. Par ce qui se passe, par ses rencontres avec ses enfants, par l'émotion que transmettent les interprètes, par l'émotion de d'Anthony Hopkins qui est époustouflant, par l'émotion de Jenny Flynn, par tous ces personnages qui sont vraiment criants de vérité. Voilà, c'est vraiment le mot juste. Et quand on sait en plus que dans cette scène où il y a ces enfants justement qui se lèvent, il y a des vrais, ceux qui s'en sont sortis, qui sont dans le cast de ceux que vous allez voir dans cette scène, c'est encore plus fort. Quand on sait des moments qui sont vécus après et qui sont véridiques, quand on sait cet acharnement, ce fait qu'un homme a pu changer les choses. Un homme a pu brandir et dire tout haut, non, je vais faire quelque chose. Je ne peux pas tous les sauver, comme on lui dira, c'est sa maman qui va lui dire, mais je vais faire mon maximum. Je vais essayer d'en sauver le plus possible. Et ces convois qui sont mis en place, ces trains qui partent, et quand tu sais ce que devient le dernier train, mon Dieu, mais tu sors de là, tu es j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de respirer et j'ai surtout besoin, comme vous l'a dit des personnes, ils se disent, oui, ça me donne envie de changer les choses. Ça me donne envie de me dire, nous, on ne vit pas ce côté de la guerre. Heureusement, on n'est plus en guerre comme en 39-45, mais d'autres pays le sont. D'autres pays ont des réfugiés comme ça qu'on pourrait aider et donc ça me donne envie de pas dire oui, bon, voilà, je sors de là, j'oublie, c'est un beau film et basta. Bon, j'ai envie de faire quelque chose, de contribuer à faire quelque chose. Donc, je trouve que c'est une belle morale à ce film. Je trouve que si ça pouvait faire bouger les choses, un simple caillou, ça fait pas grand chose dans une mare, mais si t'en mets plusieurs et si tu fais, ça peut faire des remous et changer beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ce film est vraiment très très fort et félicitations, chapeau bas à tout le monde. Vous pouvez découvrir ce film, que ce soit en version originale ou en version française. au cinéma, que ce soit comme nous, au Pathé Wilson. Voilà, on a été le voir au Pathé Wilson, il est au Gaumont-la-Bèche, il est au Cégère Blagnac, il est un peu partout. N'hésitez pas à aller découvrir cette claque émotionnelle, ce chef-d'œuvre historique et cet hommage rendu à cet homme, Nicholas Winton, qui a sauvé 659 enfants.
Chose. Est-ce que tu penses aux enfants, à ce qu'ils ont pu devenir ?
Oui, 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 ça m'arrive de temps en temps. Et toi ?
Et maintenant, une histoire extraordinaire qui vient d'être révélée au sujet d'un jeune homme qui est allé il y a bien longtemps visiter Prague. Il a découvert là-bas des milliers de réfugiés abandonnés et à la merci de l'invasion imminente d'Hitler.
Il y a des enfants ici qui vivent en plein air, dans la boue. Ce que j'ai vu, rien ne saura l'effacer.
Un déplacement massif d'enfants qui n'ont ni argent ni visa.
Écoutez, nous devons tout faire pour croire que ça peut être possible.
Il y a un millier d'enfants sur cette liste.
Alors on va activer tout ça.
Vas-y, tout de suite!
Ce doit être très difficile pour vous, sachant ce qui est arrivé à tous ces enfants.
En fait, je ne sais pas ce qui est arrivé.
Notre émission est loin d'être terminée. J'ai une question. Y a-t-il quelqu'un ici dans ce studio dont la vie a été sauvée par Nicholas Winton ? C'est bien qu'on ne peut pas tous les sauver. Il va bien falloir que tu te pardonnes ça.
Qui sauve une vie, sauve le monde.
C'était Chaud Devant Ciné, les sorties du 21 février. Rendez-vous au cinéma.